Alors, c'est en fait, je vais me présenter un peu plus peut-être pour que vous voyez d'où je viens et puis d'où je parle entre guillemets aussi et ce qui motive aussi mon intérêt pour ces questions-là. Je suis moi-même un converti en fait. J'ai été baptisé en 2014 et je viens d'une famille complètement athée. Et les premières propositions religieuses qui m'ont été faites dans ma vie en tant que jeune homme complètement qui ne connaissait absolument rien en questions religieuses, ça a été les propositions qui m'ont été faites, ça a été l'appartenance à des groupes ésotériques en fait, par le biais d'une personne dont je vous parlerai dans le cycle de conférences. Et en fait, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais toujours est-il que c'est pas ça qui s'est passé. J'ai fini par demander le baptême et par être baptisé catholique en 2014. Et au fur et à mesure, donc en même temps, je suivais des études à l'université sur les religions comparées. Et au fur et à mesure des études et des réflexions, je me suis rendu compte que l'ésotérisme était déjà omniprésent à la fois à l'heure actuelle, c'est-à-dire si vous avez une grande librairie près de chez vous, que vous avez l'habitude d'aller dans une grande librairie, vous devez connaître le rayon religion, et dans le rayon religion, il y a une partie ésotérisme. Et moi qui viens de Bordeaux, dans la librairie bordelaise Mola, le rayon ésotérisme ne cesse de croître, il devient de plus en plus important, et à l'heure actuelle, il est plus important que le rayon religion chrétienne. Et après, quand on parle un peu avec les gens, on se rend compte que dans les pratiques ou dans les croyances des gens, c'est quelque chose qui est très présent, et peut-être même à l'heure actuelle plus présent que la foi chrétienne. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir, une réflexion qu'on pourrait avoir, de savoir si, à l'heure actuelle, en France, il y a entre 2 et 3% de gens qui vont à la messe tous les dimanches. 2 ou 3%, pas plus. Où sont tous les autres gens? Ils ne sont pas tous athées, matérialistes, carabinés, ils ne sont pas tous musulmans, donc où sont-ils dans le paysage religieux? Alors il y a peut-être des chrétiens tièdes qui pratiquent plus, mais il y a aussi d'immenses groupes de gens qui croient en autre chose, des religions qui n'ont peut-être pas de nom très clairement défini. Et ma conviction, c'est que dans le jeu de concurrence entre les religions, entre les croyances religieuses, c'est l'ésotérisme qui, à l'heure actuelle, enfin, les dérivés d'ésotérisme qui sont en train d'emporter, entre guillemets, le morceau, et d'attirer à eux de plus en plus de gens. Et comme l'ésotérisme n'est pas un courant religieux précis avec un pape, un chef identifiable, que c'est au contraire une espèce de galaxie avec plein de petits groupes indépendants les uns des autres qui ne se connaissent pas forcément, c'est très compliqué à analyser, à étudier, puisqu'en fait, ça paraît vraiment comme une constellation très, très éclatée. Donc déjà, si vous êtes venu en espérant avoir une définition claire et précise de l'ésotérisme, il faudra attendre la fin du cycle de conférences, parce que vous allez voir que c'est une question assez complexe. Alors, il existe des études universitaires sur l'histoire de l'ésotérisme, il y a une chaire d'histoire des courants ésotériques à l'école pratique des études, et il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces questions, mais ce n'est vraiment pas le plus important dans les études religieuses en France, c'est surtout les religions clairement identifiables qui ont des universitaires pour travailler dessus. Il existe aussi du côté de l'Église catholique des personnes qui travaillent sur ces questions et qui produisent des analyses et des réponses chrétiennes aux défis et aux questions que posent les courants ésotériques. Mais finalement, c'est quelque chose qui est assez peu développé. Et donc, ben moi, ça fait plusieurs fois que je viens à la Sainte-Baume. On croise énormément de personnes qui sont dans ces courants-là et avec qui on peut avoir des discussions. Et on se rend compte que même chez les religieux, comme les dominicains qui étudient beaucoup, qui connaissent énormément de choses, il n'y a pas toujours le matériel historique et le matériel. Comment dire? Oui, voilà, forcément, ils n'ont pas le temps de tout étudier correctement. Et donc, du coup, le fait d'avoir des personnes comme moi qui étudient ces sujets, qui ont amassé un petit peu de connaissances sur ces sujets, qui sont capables d'en parler, bah voilà, c'est la raison d'être de ce petit cycle de conférences, c'est ça, c'est de pouvoir échanger sur ces sujets-là, échanger les informations dont on dispose. Et puis faire rayonner ça un petit peu auprès du public qui fréquente le couvent des Dominicains de la Sainte-Baume, puisque c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde et que vous êtes là. Alors, le but de ce petit cycle de conférences, c'est pas de faire de vous des experts en ésotérisme ou des spécialistes de l'histoire de l'ésotérisme, mais c'est que vous puissiez repartir avec, on va dire, un bagage minimum sur l'histoire de ces courants, parce que ça me semble vraiment très important, pas seulement de les regarder tels qu'ils sont aujourd'hui, mais de les inscrire dans l'histoire. Et de voir d'où ils viennent, ça permet de mieux comprendre et de mieux y répondre en tant que chrétien. Quelques points sur les doctrines qu'on peut y trouver, en sachant que c'est très compliqué, parce que, comme je vous disais, c'est un peu explosé, c'est un peu une espèce de galaxie, donc vous allez y trouver des choses très très variées, et qui vont de choses d'une grande profondeur théologique, si on peut dire, à des choses vraiment beaucoup plus grotesques et farfelues, enfin, on verra au cours de ces topos. et puis une petite idée aussi des pratiques qui se rencontrent dans ces milieux. Le but est simple, c'est déjà dans un premier temps de vous prémunir vous-même en tant que personne des choses néfastes qu'on pourrait trouver dans ces mouvements, et d'éventuellement aussi discerner ce qu'il y a de bon dedans pour arriver à discuter avec les gens qui en font partie et les aider justement à discerner ce qu'il y a de bon et de moins bon dans ce qu'ils font. Voilà, donc vous prémunir vous-même des éventuels dangers de ces courants, c'est de voir ce qu'on y trouve, est-ce que ça manipule, et éventuellement donc aider les autres. Après, il y a un enjeu, à mon avis, plus vaste, et c'est ce qui motive, comme disait le frère, je fais une thèse sur Frédéric Lenoir. Je ne sais pas si tous vous voyez qui est Frédéric Lenoir. C'est une personne médiatique relativement connue. Il a été le directeur de la revue Le Monde des Religions. Il a eu une émission sur France Culture qui s'appelait Les Racines du Ciel, qui passait à une heure de grande écoute toutes les semaines, et qui avait vraiment une audience assez importante. Et à l'heure actuelle, en France, c'est lui qui vend le plus de livres sur les thèmes religieux. Chaque année, c'est lui qui est au sommet de... la Bible reste en tête quand même dans les ventes, les chiffres de vente, c'est la Bible en premier, la dernière encyclique du pape en général en deuxième, et après des livres de Frédéric Lenoir ou des personnes équivalentes. Mais c'est pour dire que les personnes de ce style-là, comme Frédéric Lenoir, dont la pensée et l'œuvre est très très imprégnée d'ésotérisme, ce sont ces personnes-là, à l'heure actuelle, qui ont l'audience la plus importante et qui s'adressent au nombre le plus important de gens, d'où l'intérêt de regarder ce qu'ils disent. Et donc, l'enjeu qu'il y a derrière aussi les réflexions sur ces sujets-là, c'est un enjeu beaucoup plus ample, qui est la question de la concurrence religieuse dans notre pays. Et si on s'en tient à ce qu'on voit dans les grands médias, ce que je vous disais un peu plus tôt, on a l'impression que la querelle se joue d'une certaine manière entre l'islam et le christianisme. Mais en fait, quand on regarde les statistiques et la réalité des faits, ça se joue beaucoup plus entre christianisme, islam, d'accord, c'est deux religions en concurrence, mais il y a aussi la concurrence de l'athéisme et du discours matérialiste sur les religions, mais qui n'est pas si important que ça, finalement. Il n'y a pas énormément de gens à l'heure actuelle pour tenir un discours dur comme il pouvait y avoir au XIXe siècle sur l'absurdité de toutes les croyances religieuses, etc. En revanche, il y a une concurrence très nette au niveau d'une espèce de spiritualité un peu flottante, un peu syncrétique, qui va dire « bon, les religions disent toutes à peu près la même chose, tout le monde est à peu près d'accord, etc. Bon, les chrétiens, vous croyez que Jésus est Dieu, mais bon, les bouddhistes croient autre chose, et puis l'important, c'est d'avoir une vie spirituelle, avec cette espèce de mot générique qui est assez récent, finalement, spirituel, comme si on pouvait englober toutes les religions dans une espèce de grand pêle-mêle. Et donc, à mon avis, à l'heure actuelle, c'est ce discours-là qui fait le plus concurrence à l'appartenance réelle et effective à une religion précise. Donc, le premier topo que je vous propose, c'est sur cet enracinement historique, puisque ce phénomène-là, de l'espèce de spiritualité à la carte, et de religiosité syncrétique qui fait partie du paysage religieux actuel, ne vient pas de nulle part. Il y a toute une histoire, et il y a également une histoire à l'apparition des courants ésotériques un peu plus confidentiels dont je vous parlerai au fil des topos. Et donc, pour commencer ce cycle de présentation, je pensais que c'était une bonne chose de vous montrer les racines historiques de ce phénomène et les racines historiques de ces mouvements. Et ce sont des racines qui sont très profondes, puisqu'on peut les faire remonter à la Renaissance. 15e siècle, avec tout ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle l'humanisme. Alors, en guise d'introduction générale, je vais vous lire un petit texte de saint Paul dans les extraits des Actes des Apôtres. C'est le tout premier texte que vous avez dans le dossier que vous avez reçu. Et voilà ce que dit saint Paul. Donc, il est sur le point de partir d'Éphèse. Il sait qu'il ne reviendra pas à Éphèse. Il s'adresse aux anciens d'Éphèse, donc c'est-à-dire ceux qui ont... On ne sait pas si ce sont des évêques ou des prêtres, mais c'est ceux qui ont en charge la communauté chrétienne d'Éphèse. Et voilà ce qu'il leur dit. « Soyez attentifs à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils. » Alors j'ai mis ce passage parce que justement dans les courants ésotériques, vous allez entendre le discours, mais pas que dans les courants ésotériques, mais vous allez entendre le discours, le fait que Dieu, que Jésus est Dieu, c'est une invention des conciles du IVe siècle. Là vous avez un texte du Nouveau Testament où il est clairement dit que Dieu a racheté son Église, a acquis son Église au prix de son propre sang. et du sang de son propre fils. Donc, c'est clair et net. Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. Alors, dans ce passage, je vous ai surligné les passages pour que vous voyez bien, il y a là deux éléments qui se rejoignent. Des personnes extérieures à la communauté chrétienne qui viennent et qui essayent de détourner les chrétiens de leur foi. Et du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers, etc. C'est-à-dire à l'intérieur de la communauté, des chrétiens qui vont tenir des discours, qui vont déraciner les chrétiens de leur foi et qui vont les faire quitter l'Église. Si je vous ai mis ce passage, c'est pas pour donner une tonalité inquiétante et maléfique au propos, c'est parce que ce qui s'est produit à la Renaissance et ce qui a donné comme point de départ, ce qui a donné un point de départ au courant ésotérique de tous les siècles suivants, c'est exactement ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'il y a eu la jonction de deux phénomènes distincts. Il y a eu l'introduction dans l'Église catholique d'éléments qui lui étaient extérieurs et qui ont déstabilisé les théologiens chrétiens. Et il y a eu, à l'intérieur du monde chrétien, des personnes qui ont commencé à développer des formes de pensée, déstabilisant aussi les conceptions traditionnelles de l'Église. Alors, pour vous situer rapidement le contexte historique de la Renaissance, parce que j'imagine que tous vous n'avez pas forcément les idées bien au clair sur les grandes périodes historiques. La Renaissance, c'est une période de grands bouleversements. Souvent, on parle de la découverte de l'Amérique, mais en fait, il y a un épisode beaucoup plus important, quelques décennies plus tôt, c'est en 1453, la prise de Constantinople par les Turcs. Donc, dans le monde chrétien, c'est un événement de grande ampleur, puisque c'est la partie orientale de la chrétienté qui s'effondre d'une certaine manière et qui est mise en grave danger. Et ce phénomène, cet événement historique, a pour effet de faire s'exiler des chrétiens orientaux vers l'Occident et permet, c'est un mal pour un bien, si vous voulez, ça permet à la chrétienté latine de redécouvrir des textes qui, au Moyen-Âge, avaient été soit perdus de vue, soit qui avaient été laissés de côté, ou soit qui étaient totalement oubliés, quoi. Et parmi ces textes, il y en a qui appartenaient à la tradition chrétienne, il y en a d'autres qui n'en faisaient pas du tout partie. Et parmi ces textes, il y a un recueil de textes qui s'appelle le Corpus Hermeticum. Corpus Hermeticum, qui est un ensemble de textes attribués à Hermès, et contenant des propos... Alors c'est dans le prolongement de la pensée de Platon, si vous voulez. C'est une espèce de théodicée, qui présente un principe suprême et qui présente les voies de réintégration à ce principe suprême, pour le dire très rapidement. Et en même temps que ce Corpus Hermeticum, redécouverte de la totalité des œuvres de Platon, au Moyen-Âge, dans l'Occident latin, au Moyen-Âge, on n'en avait qu'une partie, et en parallèle de ça, un phénomène totalement... un autre phénomène, d'Espagne... En Espagne, s'était développé un courant du judaïsme très particulier qui s'appelle la Kabbale, qui est une façon, une exégèse très symbolique et très, je ne vais pas employer le mot ésotérique parce qu'il n'est pas employé à cette époque, mais une façon de lire les Écritures qui voit énormément de sens cachés, de symboles secrets, etc. Et les Juifs qui étaient en Espagne et qui avaient développé cette forme de pensée, à cause des persécutions qu'ils subissaient en Espagne, de plus en plus se sont mis à fuir vers les pays, les autres pays d'Europe. Et dans l'Italie de cette période, donc de la fin du XVe siècle, il y a une espèce de fermentation intellectuelle par la jonction de la découverte de ces anciens textes, donc du Corpus Hermeticum, des œuvres de Platon, d'autres textes de ce registre-là, l'arrivée de la Kabbale juive, et des milieux de théologiens chrétiens qui n'étaient plus satisfaits de la théologie de la scolastique héritée du Moyen-Âge. Et donc, ces personnes se sont mis à développer, en essayant d'intégrer les textes de la Kabbale et les textes du Corpus Hermeticum et la pensée platonicienne à la fois chrétienne, ont développé une forme de pensée totalement nouvelle dans l'histoire, avec des touches dont on retrouve les traces dans les courants contemporains de l'ésotérisme. Alors, je vous ai mis à titre d'illustration l'extrait d'un texte de Pic de la Mirandole, qui est l'une des personnes clés de ce mouvement. voilà ce qu'il dit. Le parfait, alors c'est pour vous résumer le contexte de ce texte, Jean-Pierre de la Mirandole voulait proposer un grand débat à Rome pour justement essayer de convaincre les théologiens catholiques d'intégrer à la théologie catholique tout ce que lui-même avait découvert en lisant les textes de Platon, les textes des Arabes, les textes du Corpus Hermeticum, et en découvrant la Kabbale, etc. Donc il voulait essayer de pousser tout ce qu'il avait découvert dans le corpus théologique catholique. Donc il a voulu proposer un grand débat, qui aurait été articulé autour de 900 thèses, donc les 900 conclusiones de Pic de la Mirandole, elles ont été, vous pouvez les trouver assez facilement, donc c'est les 900 thèses qui proposaient la discussion, et il voulait introduire le débat par ce discours Oratio de hominis dignitate, discours sur la dignité de l'homme, dans lequel il présentait son projet, il présentait sa pensée. Et donc voilà ce qu'il dit. Le parfait artisan décida finalement qu'à celui à qui il ne pouvait rien donner en propre serait commun tout ce qui avait été le propre de chaque créature. Il prit donc l'homme, cette œuvre à l'image indistincte, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui parla ainsi. « Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies. » Mais toi, que ne limite aucune borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. Je t'ai mis au milieu du monde, afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient. Je ne t'ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni mortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. » Donc, si j'ai choisi ce passage, c'est que c'est vraiment dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire religieuse, un moment de bascule, puisqu'on sort de la vision de la providence de Dieu et de Dieu qui conduit l'histoire des hommes, et de l'homme placé entre le monde animal et le monde angélique avec une nature bien particulière, la nature humaine, avec un corps et une âme mis ensemble, la Pic de la Mirandole propose la vision d'un homme capable d'une plasticité totale et pouvant s'élever jusqu'à la condition angélique ou s'abaisser jusqu'à la condition animale. Et plus loin dans le texte, il propose une revivification de la vision gnostique, c'est-à-dire la possibilité pour l'être humain de s'unir totalement à Dieu et de revenir à un espèce d'état primordial anté-création où il serait fondu en Dieu et un avec Dieu, et donc où il n'existerait plus en tant que personne. Cette façon-là de voir les choses, c'est le début d'un fil qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de l'ésotérisme occidental. Alors, dans la pensée de ces humanistes de la Renaissance, de certains de ces humanistes, puisque c'est pas tous n'ont pas développé cette forme de pensée, mais ceux dont je vous parle là, c'est Pic de la Mirandole, Marcil Ficin, Agostino Stucco. Dans la forme de pensée qu'ils ont développée, il y a aussi tout un discours sur les autres religions, qui là aussi pose des bases de quelque chose qui va se déployer au long des siècles suivants. L'idée que la révélation chrétienne constitue bien un sommet dans l'histoire des révélations, mais que d'autres peuples de d'autres endroits du monde ont eux aussi reçu des révélations tout aussi valables que la révélation chrétienne. Et il va proposer dans son texte une espèce de conjonction de tous les textes qu'il a réussi à agréger, les textes de la Kabbale, les textes des anciens Perses, les textes le zoroastrisme, c'est la même chose, les textes de Platon, etc. Il va proposer une espèce d'agrégation de tous ces textes en disant « L'humanité a reçu plusieurs révélations diverses, ces révélations culminent avec la foi chrétienne, mais on peut proposer une espèce de synthèse dans laquelle toutes les religions du monde seraient réunifiées en une seule, avec la foi chrétienne comme sommet. » Et là aussi, c'est quelque chose qui va se déployer à partir de la Renaissance, tisser un espèce de fil qu'on va retrouver tout au long des siècles suivants. Et à un moment donné de cette histoire du développement de cette idée, il va y avoir un inversement, c'est-à-dire qu'on va commencer par dire « Bon, la foi chrétienne, ce n'est plus le couronnement de toutes les révélations, mais c'est une révélation parmi d'autres. » Et après, le renversement qui va se produire au XIXe siècle, peut-être même au XVIIIe, qui va dire « La foi chrétienne, c'est non seulement une révélation parmi d'autres, mais en plus, elle est inférieure aux autres, parce qu'on trouve dans les autres des choses qu'on ne trouve pas dans la foi chrétienne. » Mais ça, j'y reviendrai. Le nom, il y a plusieurs noms pour cette forme de pensée. Le nom qui a été retenu par les historiens, c'est « Philosophia perennis ». Et il existe à l'heure actuelle un courant dans les études universitaires qui s'appelle le pérennialisme. Ce sont des universitaires qui adhèrent à cette idée. qu'il y a une espèce de révélation pérenne qui s'est produite dans tous les peuples de la planète à différents moments, et donc on retrouve le fil un peu partout. Voilà. Alors, un mot aussi sur la postérité de cette pensée de Pic de la Mirandole. Cette idée de l'homme que ne limite aucune borne, c'est peut-être, je le dis très vite, j'ai pas le temps de le prouver et de l'illustrer, mais vous avez aussi là la racine de ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée que l'être humain est susceptible, par ses propres forces, de dépasser sa condition et de passer à une condition supérieure au-delà de l'humanité. Puisque aucune borne, selon ce que dit Pic de la Mirandole, aucune borne ne limite l'humanité. Donc c'est vraiment, enfin, Pic de la Mirandole, c'est vraiment un espèce de carrefour à partir duquel sont nées beaucoup de pensées dont on retrouve les traces jusqu'à aujourd'hui et qui sont énormément influentes. Alors, deuxième étape dans cette histoire, je suis obligé d'aller très vite du coup, puisque comme je parcours plusieurs siècles en un topo, ça va assez vite. La suite de l'histoire se prolonge au début du XVIIe siècle. Alors, toute cette pensée de l'humanisme renaissant, qu'on peut déjà appeler ésotérique ou hermétique, se déploie dans les siècles suivants, est rejetée. Pic de la Mirandole est condamné, en fait, ses thèses, une partie de ses thèses sont condamnées par les théologiens catholiques, et le projet qu'il avait d'arriver à intégrer tout cela dans la doctrine catholique échoue, mais ce courant de pensée se déploie et commence à vivre une vie historique, si vous voulez, est adoptée par certaines personnes, et puis après, ça donne lieu à des publications, des écoles de pensée, voilà, qui se déploient et qui produisent des intellectuels, et puis ça se relaye de décennie en décennie. Et on finit par retrouver la trace de cette pensée au début du XVIIe siècle. Alors, entre-temps, il y a eu le schisme, la réforme, le début du protestantisme, qui a créé vraiment dans la chrétienté un traumatisme assez profond, et qui n'est pas guéri, évidemment, aujourd'hui. La scission entre les catholiques et les protestants, qui est probablement la rupture religieuse la plus importante dans l'histoire de l'Europe occidentale, avec les conséquences les plus profondes. Et cela donne lieu également, enfin, c'est articulé avec des conflits politiques. Et un certain nombre de personnes sont soucieuses d'essayer de réunifier, en fait, et de réintégrer, de réunifier les chrétiens. Et parmi les personnes qui essayent de réunifier les chrétiens, certains vont s'inspirer justement de ces thèses des humanistes, en disant, mais au fond, on dit tous la même chose, il y a une espèce de supra-doctrine qui est susceptible de tous nous réunifier. Et donc on trouve au début du XVIIe siècle une tentative de cet ordre qui a été menée par un cercle de jeunes théologiens de l'université de Tübingen, groupés autour d'un certain Johann Valentin André, vous avez son nom là-haut, en haut de la page 2. Et la tentative qu'ils ont effectuée, alors il n'y a pas assez de sources pour écrire vraiment l'histoire précise de cet événement historique, mais vraisemblablement, ils ont tenté de forger de toutes pièces une espèce de fraternité, de confrérie qui sortait de leur imagination, inspirée par la pensée de la Renaissance, qui se serait appelée la fraternité des Rose-Croix, et ils lui ont inventé toute une histoire imaginaire, la faisant remonter à des temps hantés avant même Moïse, etc., en proposant une espèce de corps doctrinal susceptible de réconcilier tous les chrétiens dans une unité transcendante d'une certaine manière. Alors, je vous ai mis quelques extraits. Leur tentative s'est manifestée de cette façon. Ils ont publié 3 années d'affilée des textes. Le premier s'appelle Fama Fraternitatis en 1614. Le second Confessio Fraternitatis 1615. Et le deuxième, les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, donc qui était le fondateur légendaire de leur fraternité, 1614, 1615, 1616. Et donc vous avez sur la page 2, je ne vais pas tout lire parce que c'est très long, mais vous avez un extrait du deuxième de ces textes, de la Confessio Fraternitatis. Et je vous lis simplement la fin de la page, le chapitre 9, l'extrait du chapitre 9. Nous avons une écriture magique, reproduction de ce divin alphabet avec lequel Dieu a transcrit sa volonté sur la nature terrestre et céleste. Avec ce nouveau langage, nous lisons la volonté de Dieu pour toutes ses créatures. Aussi, de même que les astronomes prédisent les éclipses, ainsi nous pronostiquons les obscurations de l'Église et leur durée. Notre langage est semblable à celui d'Adam et d'Enoch avant la chute, et bien que nous comprenions ces mystères et sachions les expliquer dans la langue sacrée, nous ne pouvons en faire autant en latin, qui est une langue contaminée par la confusion de Babylone. Donc là, dans ce texte, ce que vous voyez, c'est des personnes qui disent « Nous sommes détenteurs d'une connaissance secrète qui remonte à avant la chute et nous vous proposons, en venant vous joindre à nous, d'accéder à cette connaissance qui est anté-incarnation, anté-révélation mosaïque, avant Moïse, avant même l'épisode de la tour de Babel. En fait, on revient au projet gnostique, en fait, vous accédez à un état avant même la chute et avant même, d'une certaine manière, presque la création. Vous êtes dans un état d'union avec Dieu total. » Alors, cette fraternité a passionné, ça a vraiment été dans l'Europe de cette époque, quelque chose qui a beaucoup interpellé les milieux intellectuels, et des personnes aussi célèbres que Descartes ont essayé de rentrer en contact avec cette fraternité qui était imaginaire, en fait. Et non, forcément, non pas réussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fraternité imaginaire, c'est cela qui a servi d'archétype à la constitution de la franc-maçonnerie moderne, dont je vais vous parler à présent. Il me reste... Ouais. Alors, la franc-maçonnerie, j'imagine que tous, quand on dit franc-maçonnerie, ça doit susciter des images ou des... Enfin, c'est quelque chose dont on parle, qui à l'heure actuelle est dans le paysage... et religieux, et philosophique, et politique de la France, et plus généralement de l'Europe et de l'Occident. Et spontanément, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais spontanément, on pense à sociétés semi-secrètes qui agrègent des cercles de pouvoir, et dont on soupçonne qu'elle a une influence plus ou moins importante sur la vie politique et sur les lois du pays, etc. En bien si on est pour, en mal si on est contre. Enfin voilà, il y a cette idée de société un petit peu qui agit un petit peu dans l'ombre, mais qui influe sur la politique des États. Et chez les plus durs, cela va prendre des aspects. Alors pour les plus convaincus, des pro-francs-maçons, ça va être une espèce de religion secrète qui est chargée d'acheminer l'humanité vers un état de bonheur absolu, vers une espèce d'état utopique. Et pour les plus anti-maçons, ça va être la franc-maçonnerie, c'est une espèce de société démoniaque souterraine qui agit dans l'ombre pour la destruction totale de la chrétienté et de la vertu, de tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Alors bon, je ne me propose pas de trancher ce débat ici, désolé si c'est ce que vous vouliez. Par contre, ce que je vous propose, c'est de regarder comment est apparue la franc-maçonnerie, et je pense que quand on voit la manière dont ça s'est déployé historiquement et où ça s'est enraciné, ça permet de mieux la situer, d'avoir un avis peut-être un peu plus dépassionné sur le sujet, et surtout de mieux comprendre sa situation actuelle et son état actuel. Alors, la franc-maçonnerie, dans ses origines anciennes, vient des corporations de maçons du Moyen-Âge. C'est très ancien. Il s'agit tout simplement... Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les Compagnons du Devoir. La Sainte-Baume, c'est un lieu de pèlerinage pour les Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, c'est un groupe... une corporation d'artisans, avec plusieurs corps d'artisans, qui forment des jeunes gens à l'exercice d'un métier et qui ont greffé sur leur formation professionnelle tout un système symbolique assez proche par certains aspects de la franc-maçonnerie. La racine franc-maçonnerie-compagnonnage est commune, en fait. Et au Moyen-Âge, donc, quand on a commencé à vraiment édifier de plus en plus d'églises et de cathédrales, il a fallu forcément former des maçons, il a fallu un personnel qualifié. Et donc, adossé au chantier des églises ou des cathédrales, se trouvait une petite loge, c'est de là que vient le nom des loges maçonniques, une loge dans laquelle se retrouvaient les maçons et leurs apprentis, et c'était l'occasion de transmission de connaissances professionnelles, mais c'était aussi l'occasion pour les jeunes apprentis de recevoir une éducation morale, puisque toute une partie d'entre eux venait des campagnes de Dieu sait où, n'avaient pas reçu spécialement d'éducation religieuse bien approfondie. Donc il y avait deux volets, il y avait un enseignement professionnel et un enseignement religieux et moral. Et dans les anciens documents qu'on a de cette ancienne maçonnerie médiévale, on voit des textes tout à fait catholiques, en fait. C'est-à-dire, on apprend à un jeune homme à devenir un bon maçon et à devenir un bon chrétien, un bon catholique. C'est aussi simple que ça, les origines historiques de la franc-maçonnerie. À un certain moment de l'histoire... les chantiers sont tombés, il y en a eu de moins en moins, et il y a besoin de moins de maçons. Mais en parallèle de ça, un certain nombre de personnes s'étaient trouvées... Alors, pour, j'ai oublié un petit détail, mais pour faire un petit peu rêver ces jeunes gens qui rentraient dans le métier de maçon, il y avait toute une histoire un petit peu légendaire du métier, et on leur parlait des constructeurs du Temple de Salomon, on leur parlait des constructeurs de... enfin, je sais, j'ai plus les éléments historiques en tête, mais en gros, on leur faisait une histoire légendaire du métier en leur disant « Vous voyez, le métier de maçon, c'est un métier noble et beau et grand. Regardez tous vos illustres ancêtres, etc. » Et ce qui s'est passé à un moment de l'histoire, c'est que des personnes qui baignaient dans ce milieu ésotérique, enfin, ce milieu hermétique, ésotérique, autour des gens qui s'étaient passionnés pour la Rose-Croix et cette histoire de société secrète, ont découvert les loges maçonnes et y ont vu un socle possible pour constituer une sorte de fraternité comme ce qui avait été proposé de manière imaginaire dans les manifestes Rose-Croix, mais cette fois-ci en vrai, c'est-à-dire d'échafauder vraiment une société secrète avec des connaissances cachées, etc. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, alors je ne vais pas vous faire toutes les étapes parce que je n'ai pas le temps, mais il y a eu un glissement en fait entre une franc-maçonnerie qui s'appelle opérative, qui était faite par des gens qui étaient dans l'ouvrage, dans le opérative, ça vient de œuvre, donc ils étaient vraiment dans le... ils œuvraient pour la construction, à une franc-maçonnerie spéculative, constituée de gens qui n'appartenaient pas au métier de maçon, qui n'avaient plus rien à voir avec la maçonnerie réelle incarnée, et qui ont gardé simplement de la maçonnerie médiévale l'aspect rituel d'une certaine manière, enfin l'espèce d'histoire légendaire du métier de maçon, tout l'appareillage symbolique qui avait été greffé sur ces pratiques, et ont transformé ça en société, en espèce de club semi-secret, où les gens se retrouvaient pour disserter sur des sujets philosophicaux, religieux, etc. Au départ, tout à fait chrétien et catholique, avec une influence hermétique, ésotérique, etc. Mais c'était des gens qui étaient chrétiens et qui ne se revendiquaient pas autre chose que chrétien. Nouvelle étape dans ce processus historique. Au début du XVIIIe siècle en Angleterre, là, vous voyez, on était au début du XVIIe siècle avec le manifeste Rose-Croix, là, on se retrouve au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Une Angleterre qui a fait schisme avec l'Église catholique, qui n'est plus en communion avec Rome, une Angleterre qui est elle-même divisée religieusement, et dans les personnes qui se retrouvaient dans les loges écossaises et anglaises, il y avait des pasteurs, des protestants, des catholiques. Et pour que les gens évitent de se taper dessus, l'idée qu'ils ont eue, c'est d'essayer de refondre les textes de l'ancienne maçonnerie pour produire un texte qui réconcilie tout le monde et qui mette tout le monde d'accord. Alors, c'est un véritable processus de falsification historique qui s'est produit, puisqu'en fait, les responsables... Alors, il y a eu une jonction de plusieurs loges anglaises. Les responsables de cette loge, donc Anderson et Desaguliers, donc un Français exilé, un protestant français exilé et un pasteur anglais, Desaguliers et... oui, je vous ai mis les noms là, en haut de la page 3, donc vous les avez. Ont collecté tout ce qu'ils pouvaient trouver des anciens textes de l'ancienne maçonnerie catholique, donc, les ont détruits, et avant de les détruire, s'en sont inspirés pour sortir un autre texte, qui s'appelle donc les Constitutions d'Anderson, qui servent toujours de base à une grande partie de la franc-maçonnerie mondiale. Et donc, ce texte, la logique de ce texte, c'était d'arriver à proposer une espèce de religion chrétienne un peu floue, susceptible de mettre tout le monde d'accord, en insistant fortement sur l'aspect tolérance, en disant, bon, vous venez dans cette loge, c'est pas pour avoir des débats entre catholiques et protestants, c'est pour œuvrer au bien de l'humanité, etc. Enfin, les motifs que se proposaient déjà l'imaginaire société secrète Rose-Croix. Et pour vous montrer que les francs-maçons de cette époque n'étaient pas anti-religieux, parce qu'en France, on a une image très laïcarde et anti-religieux, etc., pour montrer que les maçons de cette époque n'étaient pas anti-religieux, je vous ai mis un extrait de ces constitutions d'Anderson. « Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. » mais quoique dans les temps anciens les maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays et de cette nation, ça c'est faux, au départ les maçons étaient tous catholiques, quelle qu'elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière et qui consiste à être des hommes bons et loyaux, et hommes d'honneur et de probité. Voilà. Quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. Donc, vous voyez, l'héritage de cette pensée renaissante, on va vous proposer une supra-religion qui mette tout le monde d'accord. On la retrouve là, sous cette forme-là, dans une volonté, on pourrait dire, pré-œcuménique avant l'heure, quoi. Dire, bon, vous n'êtes pas d'accord sur des points de doctrine précis, la présence réelle dans l'Eucharistie, le rôle du pape, etc. Peu importe, il y a une religion supérieure qui est la religion des gentilshommes, en fait. Il suffit d'être bon moralement, il suffit d'être tolérant et respectueux, et vous êtes un bon chrétien. Et donc là, à la fois, vous avez l'enracinement chrétien de la franc-maçonnerie, et à la fois, l'enracinement historique de ce qui va devenir le relativisme religieux, et ce qui va devenir aussi, on peut y voir les germes, d'une certaine manière, de ce qu'on trouve aujourd'hui dans la franc-maçonnerie dominante française, dont je vous dirai quelques mots après. Voilà. Pour vous donner... Alors, je vais pas avoir le temps de trop détailler... Mais pour vous montrer, pour vous donner les étapes de la sécularisation d'une certaine manière de la franc-maçonnerie et du déploiement de ces germes dont je vous ai parlé là, je vous ai mis en texte 4 et en texte 5 deux étapes. Les constitutions, la réforme des constitutions du Grand Orient de France en 1877, donc là on est quand même un siècle et demi après. Il y avait dans les textes des constitutions, il apparaissait la mention de Dieu et la mention du grand architecte de l'univers. En 1877, le Grand Orient de France, donc une des obédiences maçonniques françaises, a voté la suppression de la mention de Dieu et du grand architecte de l'univers dans ses constitutions. Et il y a eu encore d'autres réformes à la suite, puisque je vous ai mis l'extrait des constitutions actuelles. Et là, vous pouvez chercher les traces des origines chrétiennes, vous ne les trouverez pas vraiment. Institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, la franc-maçonnerie a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle attache une importance fondamentale à la laïcité. La franc-maçonnerie a pour devise « liberté, égalité, fraternité ». Alors, si vous trouvez une trace de christianisme, enfin de foi chrétienne un petit peu ancrée et formulée clairement là-dedans, moi je ne la vois pas, mais quand on remonte le fil historique, cela vient de ce processus de... C'est le passage de Saint-Paul que je vous lisais au début. C'est du milieu des chrétiens ont surgi des personnes qui ont tenu des discours qui finissent par aboutir à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire de plus ? Prolongement contemporain de l'ésotérisme savant. Alors, là, je vous ai parlé seulement des deux principaux canaux, d'une certaine manière, de diffusion de ce qui était né à la Renaissance, le rosicrucianisme, les Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Le rosicrucianisme continue d'exister à l'heure actuelle et s'est incarné au XIXe siècle, c'est-à-dire que ces manifestes sur une fraternité fictive du XVIIe siècle ont donné lieu au XIXe siècle à la constitution de groupes religieux réels. Et vous avez à l'heure actuelle des groupes ésotériques qui se revendiquent de l'héritage des Rose-Croix. Le plus important, c'est l'Amorc. Là, j'ai pas mis de texte dessus, donc pour ceux qui prennent des notes, c'est AMORC, Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, la Morque. Très proche dans son organisation de la franc-maçonnerie, et il y en a une à Bordeaux, ils ont des loges un petit peu partout, ils appellent ça, ça s'appelle pas loge chez eux, j'ai oublié le nom. Ils ont un grand maître qui est français à l'heure actuelle, et ils ont une structure pyramidale un peu calquée sur la structure de l'église, et un système d'initiation calqué sur celui de la franc-maçonnerie. Et ils sont beaucoup, beaucoup moins importants en nombre et en influence que la franc-maçonnerie, mais c'est tout de même un groupe assez influent qui existe et donc qui est bien vivant aujourd'hui et qui a un déploiement dans le monde assez important. Et vous avez donc les prolongements contemporains de la franc-maçonnerie. Alors là, je ne vais pas détailler aujourd'hui parce que j'en dirai un mot demain, mais il était... Enfin, à l'évidence, aujourd'hui, la franc-maçonnerie est extrêmement, extrêmement développée. Il y a une franc-maçonnerie qui est dans l'héritage de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire déiste avec une très forte coloration chrétienne et qui peut être assez réactionnaire sur certains sujets, donc qui n'est pas du tout dans la même logique que la franc-maçonnerie dominante en France. Et par contre, en France et dans d'autres pays, il y a une franc-maçonnerie qui a totalement rompu ses racines religieuses, avec ses racines religieuses, et qui est plutôt de tendance anti-religieuse, mais ce qui est paradoxal, avec tout un tas de pratiques et une sorte de doctrine qui se prétend adogmatique, mais qui en fait propose des choses très positives, et des choses très... un contenu philosophique et religieux très concret, très réel, et qui en France est notamment incarné par le Grand Orient de France. Et par ailleurs, vous avez eu tout au long de l'histoire des déploiements et des prolongements de la pensée de ces humanistes de la Renaissance, donc le Pic de la Mirandole, Ficin, etc., qui ont des prolongements jusqu'à nos jours. Il y a l'ordre martiniste, par exemple, pour vous donner quelques noms. Il y a le... Oui, les martinistes, qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre ? Pasquali. Je ne connais pas ça. Ah oui, Pasquali, oui, le fondateur. Et par ailleurs, il y a aussi tout un courant de pensée qui dérive de ce courant de la Renaissance, qui a des grands noms et qui a ses lettres de noblesse, qui a vraiment des penseurs particulièrement éminents. Et celui dont j'aimerais vous dire un mot pour finir, c'est un qui, à mon avis, est peut-être le plus influent depuis le début du XXe siècle, c'est René Guénon. René Guénon, qui est une personne qui a déployé une œuvre extrêmement... virtuose, en fait. C'est-à-dire qu'il a écrit une vingtaine de livres, il a écrit des dizaines et dizaines d'articles, une œuvre d'une très forte unité, qui prétend proposer quelque chose qui réconcilie toutes les religions dans une synthèse supérieure, avec l'idée de tradition primordiale, c'est-à-dire il existerait une tradition primordiale dont toutes les religions sont des sortes de branches déployées, en fait, comme s'il y avait un tronc, et que chaque religion avec un ancrage traditionnel fort, pas les petites religions émergentes, etc., mais les religions avec un ancrage historique très, très ancien et très profond, seraient des branches ayant poussé sur ce grand tronc qui est la tradition primordiale. Et donc, je vous disais que dans la pensée des humanistes de la Renaissance, il y avait... pluralité de révélations couronnée par la révélation chrétienne. Chez Guénon, ça s'inverse. C'est une pluralité de religions. Lui, il appelle ça des traditions. Pluralité de traditions dont toutes ont une valeur propre et permettent toutes d'accéder à la source qui est la connaissance suprême et l'union avec Dieu, avec le principe suprême. Mais dans cette perspective-là, le christianisme n'a pas une place suréminente et un rôle de couronnement, mais il a au contraire un espèce de rôle un peu ringard de religion qui a une base religieuse bonne, qui vient vraiment de la souche de la tradition primordiale, mais qui a perdu son ésotérisme et donc qui est une forme de tradition amoindrie. Et je vous ai mis pour illustrer cette perspective le texte 6. Un extrait d'un article, donc c'est devenu un extrait d'un recueil d'articles, donc le recueil d'articles c'est Initiation et réalisation spirituelle, mais à la base c'était un article, et voilà ce qu'il dit. En dépit des origines initiatiques du christianisme, celui-ci dans son état actuel n'est certainement rien d'autre qu'une religion, c'est-à-dire une tradition d'ordre exclusivement exotérique. J'ai pas encore défini le mot ésotérique, mais en fait, il y a ce jeu de miroir du côté des ésotéristes entre ésotérique et exotérique. Et j'essaierai d'expliquer ça dans les autres topos. Une tradition d'ordre exclusivement exotérique. Et il n'a pas en lui-même d'autre possibilité que celle de tout exotérisme. Il ne le prétend d'ailleurs aucunement, puisqu'il n'est jamais question d'autre chose que d'obtenir le salut. Une initiation peut naturellement s'y superposer, et elle le devrait même normalement pour que la tradition soit véritablement complète, possédant effectivement les deux aspects, exotérique et ésotérique. Mais dans sa forme occidentale tout au moins, cette initiation en fait n'existe plus présentement. Il est d'ailleurs bien entendu que l'observance des rites exotériques est pleinement suffisante pour atteindre au salut. C'est déjà beaucoup assurément, et même c'est tout ce à quoi peut légitimement prétendre aujourd'hui plus que jamais l'immense majorité des êtres humains. Mais que devront faire dans ces conditions ceux pour qui, suivant l'expression de certains mutasawin, donc ça c'est les initiés du soufisme, le paradis n'est encore qu'une prison. Et donc là, vous avez donc quelqu'un qui vous explique que le salut proposé par la foi chrétienne, donc la sainteté et l'entrée dans la vie divine et dans la communion trinitaire, bah, c'est un peu ringard en fait. Ce qu'il faut, c'est plus que ça, il faut remonter à l'union totale avec Dieu et la fusion dans un espèce d'état Le terme qu'emploie Guénon, c'est la manifestation, pour dire ce qui donne l'impression d'être extérieur au principe. Mais pour lui, cet état doit conduire à une réintégration dans le principe. Et donc, on est peut-être à l'opposé extrême de la vision biblique, qui est un Dieu créateur, qui crée des êtres innombrables, et parce que lui-même est communion de personnes, il peut créer des êtres innombrables et les faire entrer dans sa communion de manière illimitée, si vous voulez. Là, on est dans une autre logique, une logique où le principe suprême, il y a bien un Dieu et un principe suprême, mais le but de la vie spirituelle, c'est de s'anéantir et de disparaître en tant que personne pour être réintégré dans le grand absolu. Donc, deux visions totalement différentes, et un discours d'un côté qui va dire, du côté chrétien, qui va dire le plus haut qu'on puisse atteindre, c'est cette communion, cette entrée dans la communion trinitaire, et donc ce salut qui est le relèvement du péché originel et l'entrée dans la communion trinitaire. Et d'un autre côté, ce monde ésotérique savant qui va dire non, le sommet de la vie spirituelle, c'est l'initiation et la réalisation spirituelle. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Un mot de conclusion, c'est simplement pour dire en fait que ce qu'on va trouver aujourd'hui dans les milieux ésotériques, alors là je vous ai parlé de l'ésotérisme savant, demain je parlerai du processus de vulgarisation et des formes vulgarisées d'ésotérisme et plus répandues dans le grand public. Mais le but de la présentation d'aujourd'hui, c'était surtout pour montrer qu'il y a un ancrage historique très ancien et qu'une partie de cet ancrage historique conduit à la conclusion que ces courants ésotériques sont des hérésies chrétiennes, peuvent être considérées comme des hérésies chrétiennes, puisqu'elles procèdent, qu'elles proviennent de chrétiens qui ont formulé des théories pour telle ou telle raison en fonction des contextes historiques et puis de leur propre motivation. Et que donc, si on a en tête cet ancrage historique, le dialogue qu'on pourra avoir et le discours qu'on pourra tenir vis-à-vis de l'ésotérisme devra garder ça en tête, cet ancrage chrétien de une bonne partie des formes d'ésotérisme. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est 5h20. Merci, merci. Alors j'ai une question devant.
Oui. Si j'ai bien compris, vous faites tout finalement dérivé du christianisme. Vous venez de le dire, ce sont des formes hérétiques en quelque sorte issues du christianisme, primitif ou pas. Vous avez évoqué là le soufisme.
Alors.
Comment est-ce que. Peut-être vous l'aborderez un autre jour.
Non, c'est pas ça, c'est que.
Comment est-ce que vous placez le soufisme par rapport à ce que vous venez de dire finalement.
D'accord.
Parce que vous faites tout dériver, et certainement vous avez raison. Même la maçonnerie la plus dure, on l'a fait dériver du christianisme. Bon, le soufisme, c'est pas du tout ça.
Tout à fait. C'était justement l'objet de la première citation de saint Paul, là, les loups redoutables qui s'introduisent dans la communauté chrétienne, et les hommes qui se lèvent d'au milieu de vous, d'au milieu des chrétiens, pour tenir tel ou tel discours. Et en fait, dans la manière que j'ai de voir les choses personnellement, je vois deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'ancrage dans le christianisme, et pour moi, les grandes sociétés comme les sociétés Rose-Croix, les francs-maçons, et même l'occultisme du 19e siècle, d'une manière générale, a un fond chrétien, mais par ailleurs, il y a aussi des influences exogènes qu'on a tenté d'intégrer dans la théologie chrétienne, parfois à raison, c'est-à-dire que parfois, il y a des éléments qui sont conciliables avec la foi chrétienne et qui sont potentiellement intégrables dans la théologie catholique, et d'autres éléments, en revanche, qui sont en contradiction. Et par exemple, dans la Kabbale juive, donc Pic de la Mirandole, ce sont des kabbalistes juifs espagnols qui l'ont initié à la Kabbale, alors pas initié au sens où il est rentré dans une confrérie ou quelque chose comme ça, mais qui lui ont appris l'hébreu, qui lui ont appris l'exégèse selon les processus de la Kabbale. Et par ailleurs, il y a le Corpus Hermeticum qui vient de... Alors, à l'époque, il le faisait remonter à avant Moïse ou contemporain de Moïse. En fait, les historiens considèrent que c'est un corpus qui a été formé, écrit et formé au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est dans les milieux néoplatoniciens. Et on peut trouver des petits éléments chrétiens dedans. Si on regarde bien, bon, c'est discuté, mais c'est pas...
Pas de rapport avec Hermès, la table d'Émeraude.
Pas vraiment, c'est un texte plus tardif. La table d'Émeraude, c'est... Alors, les ésotéristes veulent le faire remonter à des temps immémoriaux. Ouais. La trace la plus ancienne qu'on en ait, pour ce que je sais, la table d'Émeraude, c'est 10e, 11e siècle, je crois. Elle sera vérifiée, là, j'ai pas tous mes documents avec moi, mais c'est... Mais c'est tout ça pour dire qu'il y a des éléments qui viennent du christianisme et qu'on peut considérer comme des hérésies, mais qui s'entremêlent comme des hérésies, c'est-à-dire le mot hérésie, c'est, je ne sais plus l'étymologie exacte, mais c'est un élément qu'on a, sur lequel on a focalisé l'attention et qu'on a pris à part d'une certaine manière. Donc l'hérésie, c'est l'idée du rameau qu'on enlève de l'arbre et qu'on regarde isolément, comme s'il venait pas de... Donc une hérésie, bon, tout de suite, ça sonne méchant, mauvais, mais en fait, l'hérésie, c'est le courant détaché. Et d'un point de vue chrétien, il y a toujours possibilité, une hérésie, de la réincorporer si elle est prête à réaccepter, réentendre la totalité de la doctrine et enlever ce qu'elle a développé qui n'était pas conciliable, quoi. Donc quand je dis hérésie, il ne faut pas l'entendre comme une espèce de terme. Donc une partie qui est hérétique au sens où elle est détachée de la foi chrétienne, et une autre partie qui est totalement exogène. Et c'est sûr que la Kabbale, ça s'est développé indépendamment de la foi chrétienne. Le soufisme dans l'islam, c'est une réalité qui est propre à l'islam, en fait. Alors, il y a des personnes qui pensent que ça s'est développé au contact des chrétiens et des musulmans, mais ça, j'ai pas assez étudié ça, moi, pour savoir, pour un avis. Et puis après, bah, au 19e siècle, tout ce qui va, enfin, 18e, 19e siècle, il va avoir l'immense apport des religions orientales découvertes par l'orientalisme savant, et des tentatives d'ingestion et d'injection de ça dans la théologie catholique, chrétienne plus généralement. Et là, c'est clair aussi que ce n'est pas des éléments hérétiques, c'est des éléments qui sont extérieurs à la foi chrétienne, qui sont développés totalement indépendamment et qui sont... Donc, voilà. Donc pour moi, il y a la confluence de deux éléments. Il y a à la fois l'hérésie et à la fois le...
On pourrait parler aussi des Templiers, hein, parce que bon, c'était des hérétiques, entre guillemets, mais au contact de la... du soufisme, justement.
Voilà, les Templiers, ouais, ce sera un autre... je me permets de botter en touche, là.
Oui. Et par rapport à la Mirandole, est-ce qu'on peut parler des Varanes qui ont instruit, etc. Ceux qui sont partis d'Espagne pour retourner aux Pays-Bas, tout ça. Des Juifs.
C'est ça. Ce sont des Juifs espagnols qui ont quitté l'Espagne et qui, ben voilà, qui étaient détenteurs de méthodes d'exégèse et de connaissances kabbalistiques, quoi. Et qui ont instruit. Et Pic de la Mirandole, lui, c'était. Un juif absolument a priori abominable humainement, en fait, qui pérégrinait un peu partout en Italie et qui est sous plusieurs pseudonymes, Flavius Mithridate, je crois, qui se faisait appeler quand il a... Et donc, en fait, Pie de la Mirandole lui-même reconnaissait que c'était un être humain absolument abominable, mais qu'il avait des connaissances absolument immenses, donc il acceptait de passer du temps avec lui pour apprendre, pour être instruit dans les écritures kabbalistiques. Là, je connais moins, j'ai plus étudié l'Italie, mais c'est le même...
Et par rapport au courant, le courant de Plotin aussi, par rapport à néoplatonicien.
Alors, je n'ai pas parlé de Plotin, mais effectivement, il y a toute une tradition néoplatonicienne entre Jésus et la Renaissance. Le Corpus Hermeticum ne sort pas de nulle part, en fait. Il y a toute une tradition beaucoup plus espacée qu'à partir de la Renaissance. Mais alors, ils l'ont pas à vendre là-bas parce qu'apparemment ils n'ont pas réussi à l'avoir. Mais si le sujet vous intéresse et l'histoire de ces cons vous intéresse, il y a un excellent petit que sais-je par Antoine Fèvre, qui est l'ancien directeur d'études sur ce domaine-là à l'École pratique des hautes études. Ça fait 128 pages, ça coûte pas très cher et c'est vraiment une histoire très très bien écrite, très synthétique, mais très bien écrite de ces courants. Et c'est vraiment du travail d'universitaire très serré. Alors que bon, Antoine Fèvre, par ailleurs, lui-même, à ma connaissance, fait partie et martiniste, il me semble, mais je suis pas sûr et certain. Mais ça se ressemble pas particulièrement dans ses travaux. C'est vraiment quelqu'un qui fait un travail d'universitaire neutre et bien serré. Et donc le que sais-je actuel sur l'ésotérisme est absolument génial. Par contre, il ne va pas beaucoup vous parler de ce dont je vous parlerai demain, c'est-à-dire tout le côté vulgarisation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'ésotérisme savant de haute volée, avec les grandes spéculations à la pipe, parce que Pic de la Mirandole, ou Ficin, ou d'autres, c'est virtuose, quoi. C'est-à-dire qu'ils écrivaient, ils ont une langue magnifique, ils écrivent des textes avec une rhétorique virtuose, enfin, c'est très beau texte. Mais le contenu doctrinal n'est pas immédiatement... Voilà, on ne peut pas signer immédiatement en bas du papier, quoi.
Comment
au
différentes étapes que tu as listées, l'Église a réagi pour essayer de condamner ou circonscrire ces mouvements de l'Héros-Croix, puis le début de la Promotion, etc. Est-ce que c'était en fait le fait d'une toute petite aristocratie suffisamment, enfin, influentes, mais pas du tout nombreuses, donc en fait, l'Église disait que ce n'est pas un problème, ou est-ce qu'ils ont essayé de circonscrire, comment, comment ça s'est passé?
Ce serait, c'est un long, faudrait une longue réponse. En fait, pour deux exemples précis, pour Pic de la Mirandole, sur ces 900 thèses, il y a eu une commission de théologiens qui les a examinées. Une partie était tout à fait favorable à ce qu'il racontait, une autre partie non. Ça s'est tranché par la condamnation de 13 de ces thèses sur 900, c'est-à-dire assez peu finalement. Il s'inscrivait dans une logique de débat à l'intérieur des milieux théologiens, donc il n'y avait pas de problème particulier. Enfin, dans les milieux théologiques, ça discute en fait, et il y a des avis très différents. Donc il y a, je ne sais plus le terme exact, mais peut-être que le frère Olivier-Marie saura, mais la théologie thomiste classique, c'est un nom, c'est la doctrine classique, je crois, où il y a un terme pour... En fait, c'est l'école théologique qui met tout le monde à peu près d'accord, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord et peut se retrouver. Et à côté de ça, il y a des écoles théologiques différentes qui sont pas, qui sont tout à fait orthodoxes en fait, mais qui nourrissent le débat, quoi. Et parfois, à l'intérieur de telle ou telle école théologique, survient une hérésie, et là, à ce moment-là, elle est condamnée, etc. Enfin, il y a tout un processus. Pour Pic de la Mirandole, en fait, certaines de ses thèses ont été condamnées. On lui a demandé simplement de se taire et d'arrêter de publier le temps qu'on approfondisse plus ce qu'il amenait, puisqu'en fait, autant le thème de la magie était déjà connu, autant la cabale était très peu connue, et autant les propositions un peu extravagantes qu'il faisait sur la réunification de toutes les religions sous un seul chef, etc., ça partait d'un projet apologétique tout à fait louable et tout à fait bon, mais quand même, le pape et les théologiens, et les cardinaux, les théologiens de l'époque, ont dit « on va prendre un peu de temps pour examiner tout ça ». Et il a continué à publier tout en ayant dit au pape « d'accord, j'arrête tout le temps que vous réfléchissiez », et il a continué à publier par ailleurs. Et donc il a été condamné, il a été excommunié brièvement, en fait, il a été condamné pour désobéissance, et ensuite un théologien, un évêque de l'époque, Pedro Garcia, a produit un texte de réfutation des 13 thèses qui ont été condamnées, et a dit « voilà, ça ne nous intéresse pas, on le laisse en dehors de... voilà. » Et Pic a fait amende honorable, il a été réintégré dans l'Église, et il a fini sa vie catholique, quoi. Autre exemple beaucoup moins, qui s'est fini beaucoup moins joyeusement, c'est Giordano Bruno, qui est très connu aussi dans les milieux ésotériques. Et alors lui, c'était donc un dominicain, mais défroqué ou pas, je ne sais pas exactement où ça en était à la fin de sa vie, mais bon, personnalité extrêmement ingérable, en fait, caractère intraitable, qui incapable de la moindre obéissance à qui que ce soit, etc., bon... Et lui, lui est parti vraiment... Enfin, son œuvre, c'est une espèce de capharnaüm, ça part vraiment dans tous les sens. Alors, il y a des fils, il y a des logiques quand même dedans, mais c'est très... c'est vraiment une espèce de bric-à-brac impossible. Et donc, en fait, bon, lui, on lui a dit plein de fois « Tu arrêtes, tu te tais, tu calmes-toi, tu t'as... » Enfin, voilà, laisse les gens tranquilles. Et à chaque fois, il désobéissait. Et donc, en fait, lui, il a été condamné. Alors, dans la Vulgate et dans la pensée commune, c'est le modèle du libre penseur condamné parce que par l'Église répressive, méchante, etc. Mais en fait, dans les faits, c'est une personne ingérable et que personne n'arrive à canaliser ce qu'il fait et qui refuse de, donc, je sais pas, de respecter les règles du jeu, du débat public, les règles du jeu, de la morale, et enfin des choses vraiment communément admises, quoi, et qui finit sur le bûcher parce que c'était trop extravagant. Alors je défends pas du tout le fait d'avoir brûlé Giordano Bruno, mais c'est pour dire que c'est pas du tout on n'est plus dans le domaine du débat théologique. Là, c'est un domaine de, c'est une personne qui, du point de vue des autorités de l'époque, semait le trouble partout où il allait, quoi. Donc voilà. Et alors là, ce sont des personnes. Et après, un autre cas beaucoup plus très différent, c'est le cas de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie donc moderne, apparue donc, je vous ai donné les dates des constitutions d'Anderson, on peut considérer que c'est l'acte de naissance de la franc-maçonnerie moderne, 1723. Le pape a réagi assez rapidement, 1738, excommunication, enfin en gros, interdiction d'appartenance à la franc-maçonnerie pour tous les chrétiens. Excommunication des personnes qui en feraient partie et qui prétendraient être catholiques en même temps. Donc là, c'est plus les thèses d'une personne en particulier, c'est toute une société qui est jugée incompatible, dont l'existence même est jugée incompatible avec l'Église, et du coup dont on dit, voilà, on n'en veut pas, quoi. Et on vous interdit, vous chrétiens, d'appartenir à cette société. Et les motifs qui étaient donnés, c'est ça qui est intéressant, c'est les motifs qui étaient donnés, c'est exactement ce qui s'est passé par la suite, en fait. C'est-à-dire que les motifs qui étaient donnés, c'était pas du tout c'est une société diabolique qui pratique de la magie noire ou des choses comme ça. C'est-à-dire, une société qui agit en exigeant le secret de ses membres ne peut que conduire à des conséquences néfastes, puisque quand on est obligé de tenir un double discours et de ne pas dire ce qu'on fait, dans des circonstances paisible, quoi, sans que ce soit sous les coups de l'Inquisition ou quoi que ce soit, qu'on ne puisse pas dire ce qu'on fait dans une société, dans un groupe humain, c'est pas très sain, donc ça ne peut produire que des effets délétères. Et par ailleurs, une société qui pose comme fondement de son existence la tolérance religieuse et l'indifférence donc en matière de religion, puisque c'est un petit peu ça qu'on lit dans les constitutions d'Anderson, c'est peu importe que vous soyez catholique, protestant, anglican, etc., l'important c'est d'œuvrer à, etc., etc., et c'est ça qui fonde notre fraternité. Le discours du magistère était de dire « Mais si c'est ça le fondement de cette société, ça va conduire à une indifférence religieuse croissante et ça met en péril la foi des catholiques qui y appartiendraient. » En fait, quand on regarde ce qui s'est passé historiquement, c'est exactement ça qui s'est passé. Voilà. Enfin, de mon point de vue. Après, s'il y a des maçons dans la salle qui me contrediront, peut-être, mais...
Merci.
Merci.
Merci à vous.